Notre rendez-vous avec l'actualité, avec le journal de la rédaction et Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
Les polluants éternels en sursis.
Oui, les députés ont commencé ce matin l'examen d'une proposition de loi visant à restreindre la fabrication et la vente de produits contenant ces molécules potentiellement toxiques sur la santé, pourtant massivement présentes dans la vie courante. Nous serons en direct du Palais Bourbon et on en discutera par ailleurs avec notre invité aujourd'hui, le chimiste Pierre Labbadie. À suivre également cette tentative de front commun entre cliniques privées et médecins libéraux. Ce matin, deux syndicats ont décidé de suspendre leurs propres négociations tarifaires avec l'assurance maladie. Enfin, l'actualité à l'étranger est toujours et encore dominée par la guerre de représailles menée par l'État hébreu à Gaza. Hier soir, Benny Gantz, le principal rival du Premier ministre, Benjamin Netanyahu, a accepté, a appelé à des élections législatives anticipées. Puis après la mort de 7 travailleurs humanitaires, dont 3 Britanniques, tués par une frappe israélienne dans l'enclave palestinienne, de plus en plus de voix s'élèvent outre-Manche pour appeler le gouvernement de Londres à suspendre ses ventes d'armes à Jérusalem. Mais pour commencer cette question, boire de l'eau minérale naturelle représente-t-il un danger pour la santé? Selon une expertise menée par l'Agence de sécurité sanitaire dont les conclusions ont été transmises au gouvernement en octobre dernier, mais révélées ce matin par nos confrères de France Info et du journal Le Monde, les sources exploitées par Nestlé présenteraient des micropolluants. Une contamination régulière et généralisée, que ce soit sur son site de la région Grand Est où sont produits les marques Épar, Vittel et Contrex, mais aussi en Occitanie où est embouteillée l'eau minérale Perrier. Et le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas si un plan de surveillance renforcé a depuis été mis en place. Alors la direction de la multinationale répète de son côté que la qualité de ses eaux est désormais conforme à la réglementation et assure avoir retiré tous les traitements illicites mis en place ces dernières années. Toujours est-il, Marie Dupin, que les éléments du rapport de l'ANSES sont pour le moins préoccupants.
Eh bien, le premier enseignement, c'est que pour toutes les marques d'eau minérale naturelle produites par Nestlé, l'ANSES fait état de contamination régulière des eaux brutes avant embouteillage, des contaminations avec des bactéries type Escherichia coli ou des entérocoques intestinaux dans des concentrations parfois élevées, alors que la réglementation sur les eaux minérales naturelles ne tolère la présence d'aucune bactérie, que ce soit après ou avant embouteillage. Pour Perrier, par exemple, au moins 5 des 7 forages du site sont concernés, mais l'ANSES fait aussi état de nombreuses contaminations par des pesticides dont la somme dépasse parfois le seuil réglementaire autorisé, c'est-à-dire 0,1 microgramme par litre. Les experts évoquent un niveau de confiance insuffisant pour garantir la qualité sanitaire des produits finis, c'est-à-dire les eaux en bouteille destinées aux consommateurs. Ils écrivent d'ailleurs noir sur blanc que les non-conformités détectées ne devraient pas conduire à la production d'eau embouteillée. La direction de Nestlé, que nous avons contactée, maintient pourtant que la qualité de ces eaux est conforme à la réglementation. Le ministère de la Santé, lui, n'a pas souhaité faire de commentaires.
Risque sanitaire toujours et encore au camp des milliers de polluants éternels résistent, répandus dans des concentrations plus ou moins alarmantes sur toute la surface du globe. Les PFAS imprègnent la vie courante post-moderne depuis près d'un siècle. On les trouve partout ou presque, textiles, emballages alimentaires, ustensiles de cuisine, détergents, cosmétiques, médicaments. Seulement voilà, ce qui avait commencé comme une percée technologique a rapidement dégénéré, de sorte que ces substances per- et polyfluoroalkylées, quasi indestructibles, se sont accumulés au fil du temps dans l'air, le sol, l'eau, la nourriture et au final dans le corps humain. Alors depuis ce matin, les députés sont appelés à examiner une proposition de loi écologiste visant justement à restreindre la fabrication et la vente de produits contenant ces fameux PFAS. Un texte qu'on aurait pu imaginer consensuel mais dont l'adoption reste encore incertaine face notamment aux réserves du camp présidentiel sous la pression des industriels. Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de l'Assemblée où le vote, Sophie, final n'a pas encore eu lieu.
Non, dans l'hémicycle, le rapporteur du texte, le député écologiste Nicolas Thierry, souligne les enjeux sanitaires de cette proposition de loi, répétant le mot fléau pour qualifier les PFAS.
Un fléau dont la portée est de l'ordre de celle du désastre du chlordécone ou des ravages de l'amiante. Et j'espère que nous saurons collectivement être à la hauteur. Chaque mois, chaque année perdue se compte en vie humaine. Merci pour votre attention.
Roland Lescure, le ministre délégué chargé de l'industrie et de l'énergie, prend la parole et met en avant la volonté de l'exécutif de privilégier une action dans le cadre européen.
Nous avons souhaité demander une analyse exhaustive au niveau européen, en accompagnant la démarche de 5 États, Les Pays-Bas, la Suède, la Norvège, le Danemark, l'Allemagne qui ont déposé un dossier auprès de l'Agence européenne des produits chimiques, ECHA, en 2023. Nous soutenons cette démarche, nous souhaitons l'accélérer, nous souhaitons que l'Europe prenne des décisions fortes, peut-être difficiles, sur ces produits.
Bien sûr que nous souhaitons protéger la santé des Français, répète le ministre, qui met aussi en avant les enjeux économiques pour l'industrie française. Argument battu en brèche par le député communiste Édouard Bénard.
Opposer l'emploi et l'environnement ou opposer l'emploi et la santé n'est qu'une vulgaire manœuvre pour diviser ceux que tout devrait rassembler.
Alors qu'à l'instant, un amendement de la majorité vient d'être adopté à propos des ustensiles de cuisine au lendemain de la mobilisation des salariés de l'industriel SEB. L'amendement voté aussi par la droite et le Rassemblement national vient de valider l'exemption pure et simple de ces produits de l'industrie pour l'interdiction des PFAS. Le groupe écologiste s'insurge dénonçant, je cite, une manière de céder au lobby industriel au détriment de la santé des Français.
Merci Sophie Delpont, direct de l'Assemblée avec les moyens techniques de Johanna Gabrik. Et pour continuer d'évoquer donc ces polluants éternels dans le viseur des députés, invité à présent de la rédaction, Pierre Labadie, chimiste de l'environnement et directeur de recherche au CNRS. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Pour donner une image de l'ampleur du scandale, le député Nicolas Thierry à l'origine de cette proposition de loi compare les PFAS à l'amiante. Est-ce que cette comparaison vous semble opportune ou bien est-ce qu'on est même là encore très loin de l'ampleur du phénomène ?
Alors c'est difficile à dire, hein. Cette comparaison est difficile à faire, mais effectivement je ne serais pas surpris que dans les années qui viennent on parle de cette crise comme un vrai scandale sanitaire. Oui, une fois qu'on aura encore plus de recul, on en a déjà, mais effectivement.
Scandale sanitaire, dites-vous, que nous disent justement aujourd'hui les connaissances sur les possibles effets nocifs, voire toxiques, sur le métabolisme humain en cas d'exposition prolongée à ces PFAS?
Donc, moi, je suis chimiste, hein, donc je rentrerai pas dans les détails, mais par exemple, l'ANSES a répertorié les principaux effets. On peut trouver des altérations du fonctionnement du foie, du métabolisme, du cholestérol, des perturbations de type perturbateur endocrinien, notamment sur le système thyroïdien, et puis un effet sur le système immunitaire, par exemple. Et accessoirement, fin 2023, des composés historiques comme le PFOA a été considéré, classé comme cancérigène avéré par le Centre international de recherche sur le cancer, et le PFOS, un autre composé historique de la famille, cancérigène probable. Donc quand même, on est sur des niveaux sérieux.
Cette proposition de loi, donc soumise au vote de l'Assemblée aujourd'hui, vise dans un premier temps quatre catégories, du moins elle visait quatre catégories, puisqu'on vient de l'apprendre, donc les députés ont exclu du périmètre de la loi les ustensiles. Restent donc pour l'instant les cosmétiques, les produits utilisés pour le fartage de ski, les vêtements. Pourquoi ces catégories-là?
Il me semble que c'est parce que ces catégories-là correspondent à ce qu'on pourrait qualifier d'usages non essentiels, des usages plutôt dits de confort, et pour lesquels on dispose d'alternatives. On dispose d'alternatives pour se passer des PFAS dans ces différentes applications.
On a des solutions. Et est-il raisonnable de s'en tenir uniquement donc aux produits pour lesquels nous aurions une alternative? Ne pouvons pas aller plus vite?
Alors, plus vite, en fait, la science a rassemblé un certain nombre de connaissances hein, qui permettraient de pousser dans ce sens-là. Ça fait 25-30 ans, en fait, que les chimistes de l'environnement, les toxicologues, en fait, poussent dans ce sens et accumulent les connaissances scientifiques. Aller plus vite, je pense qu'il y a des enjeux stratégiques sur un certain nombre de filières. Je pense par exemple au domaine médical, au domaine de la transition énergétique. Là, il me semble que sur le très court terme, on n'a pas de solution alternative et que dans ces conditions-là, on peut pas vraiment se passer d'PFAS dans ces applications, ce qui ne signifie pas qu'on ne doit pas chercher d'alternative.
Ça veut dire qu'ils sont encore aujourd'hui indispensables?
Dans un certain nombre d'applications qui ne sont pas celles que vous avez listées précédemment, puisque pour les applications qui sont discutées en ce moment, on a des alternatives, y compris pour les ustensiles de cuisine.
Un deuxième volet, cette fois-ci de la loi présentée aujourd'hui, prévoit l'abandon donc à partir de 2027 de tous les produits contenant des PFAS, à l'exception de certains produits dits essentiels. De quels produits parle-t-on et sur quels critères pourrait se construire une telle liste?
Oui, ben j'ai devancé votre question en fait en évoquant le concept d'usage essentiel. Je pense que ce qui est important, c'est ben, finalement, je pense que ça passera par le débat public. En fait, pour collectivement décider de ce qui relève d'un usage essentiel, de ce qui relève d'un usage de confort, en calculant finalement, en estimant le rapport bénéfice-risque pour chacune des applications. et probablement en supprimant l'épiphase pour toutes les applications dans lesquelles on a une alternative. Et donc les critères, les secteurs clés pour l'instant qui ont été identifiés, ça va être principalement le domaine médical et le domaine de l'énergie.
Ce n'est pas la première fois en réalité que des interdictions donc sont prononcées concernant ces polluants éternels. Plusieurs initiatives judiciaires, réglementaires ont déjà été lancées dans le monde. Le problème, c'est que dès l'instant où la science démontre qu'une molécule est toxique, il suffit aux industriels d'en utiliser une autre, et la science nécessite alors à nouveau plusieurs années de recherche avant d'émettre des conclusions. C'est ce qu'on appelle des substitutions regrettables, et ce jeu donc du chat et de la souris profite bien sûr aux industriels.
Bah oui, c'est un jeu du chat et la souris qui finalement va peut-être pas bloquer, mais en tout cas très fortement ralentir l'acquisition de connaissances et derrière le processus réglementaire, qui favorise, donc, comme vous l'avez dit, les substitutions regrettables. Et dans le cas d'épiphase, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'on a une famille qui est extrêmement vaste, donc avec des propriétés hétérogènes, mais un caractère, par exemple, persistant qui va être commun à de très nombreuses substances, directement ou indirectement. Et travailler au cas par cas pour cette famille, ça paraît complètement illusoire. Il faut le faire pour certains, identifier les composés les plus problématiques, mais on ne pourra pas le faire pour l'ensemble des composés de la famille.
C'est bien compris. Merci Pierre Labadie, chimiste de l'environnement et directeur donc de recherche au CNRS, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Aloïse Guérin pour la préparation.
L'assurance maladie a annoncé ce matin le report de la séance de négociation tarifaire prévue avec les syndicats de médecins libéraux.
En l'occurrence, deux d'entre eux ont annoncé suspendre leur participation, d'où ce report. Les deux syndicats qui appellent par ailleurs les médecins libéraux à rejoindre la grève dont menacent à compter du 3 juin les hôpitaux et les cliniques privées, outrés par la faible augmentation tarifaire que leur a octroyée le gouvernement cette année. Julie Paco, bonjour.
Bonjour Thomas.
Les principaux syndicats de médecins libéraux estiment que cette faible revalorisation des tarifs hospitaliers dans les établissements privés mettent en péril leur outil de travail.
Effectivement, l'augmentation de 0,3% des tarifs des cliniques et hôpitaux privés décidés par le gouvernement la semaine dernière ne passe pas auprès des médecins libéraux qui exercent dans ces établissements. Ces derniers dénoncent une inéquité de traitement car les hôpitaux publics bénéficieront, eux, d'une hausse de 4,3% de leurs tarifs. Le docteur Patrick Gasser est le président d'Avenir Spé, le bloc, principal syndicat des médecins spécialistes libéraux.
On attaque à la fois notre outil de travail et on attaque aussi nos honoraires. On est en train de négocier les tarifs sur 5 ans, alors que le taux de charge et l'inflation impactent nécessairement notre activité. Et si on veut garder une qualité des soins, une sécurité des prises en charge, la possibilité d'aller vers de l'innovation, il faut aussi que les tarifs suivent. Sinon, on ne pourra pas continuer à avoir une médecine de qualité.
Et cette faible revalorisation mettrait en difficulté l'ensemble des établissements privés, estime encore Patrick Gasser, quand 60% d'entre eux sont aujourd'hui en déficit.
Donc ça va les mettre encore plus en difficulté financière, ça va donc les faire à terme fermer. Et si ça les fait fermer, eh bien on ne pourra plus prendre en charge des patients et notamment au sein des territoires. Et donc pour l'accessibilité aux soins, c'est un vrai problème.
Les syndicats des médecins libéraux demandent donc au gouvernement de revoir sa copie d'ici au 3 juin prochain, sans quoi ils se grefferont à la mobilisation des hôpitaux et cliniques privées lors d'une grève massive qui pourrait mettre en difficulté l'hôpital public, préviennent-ils.
Merci Julie Paco.
Vous écoutez France Culture, il est 12h43, c'est le journal de la rédaction avec vous Thomas Cluzel.
Depuis qu'Emmanuel Macron s'était déplacé en personne à Moscou pour y rencontrer Vladimir Poutine moins de 3 semaines avant que le Kremlin ne lance sa guerre d'invasion, c'est peu dire que le temps du dialogue était révolu entre les deux hommes. Leur ultime conversation téléphonique remontait au 11 septembre 2022 et depuis, il n'y avait plus eu de contact de haut niveau donc entre Paris et Moscou. Alors hier, le ministre français des armées Sébastien Lecornu a pris son téléphone pour appeler son homologue russe Sergueï Choïgou, un entretien qui aura assez rapidement tourné au dialogue de sourds, preuve s'il fallait encore s'en convaincre que discuter avec la Russie n'a aujourd'hui plus beaucoup de sens, sauf à apprécier la propagande de Moscou. C'est une correspondance signée Sylvain Tronchet.
Un dialogue de sourds, c'est ce qu'il faut retenir de la conversation entre Sébastien Lecornu et Sergueï Choïgou. Officiellement, le ministre français voulait parler lutte contre le terrorisme islamiste suite à l'attaque du Crocus City Hall revendiquée par Daesh, mais son homologue a rappelé que la position de Moscou était que cet attentat avait été commandité par l'Ukraine, aidé en cela par ses alliés occidentaux. Sergueï Choïgou s'est même interrogé un rien perfidement sur le fait que les services français puissent être derrière cet attentat. À Moscou, la cause est entendue, comme le disait hier, sans détour Nikolaï Patrouchev, le secrétaire du Conseil de sécurité, personnage clé du pouvoir.
Les auteurs du massacre du Crocus City Hall ont été financés par l'Ukraine. Or, on sait que le régime de Kiev n'est pas indépendant, mais qu'il est contrôlé par les anglo-saxons. Les Occidentaux n'essaient même pas de cacher leur participation à la planification et à l'organisation des attaques terroristes.
Dans ces conditions, on peut imaginer que les dénégations du ministre français affirmant que rien ne prouvait que l'Ukraine était impliquée dans l'attentat n'ont pas dû peser lourd face au rouleau compresseur informationnel russe. Le coup de fil de Sébastien Lecornu arrive en plus au moment où la France est clairement dans le viseur de Moscou après les propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes au sol en Ukraine et la réaffirmation par Paris de son soutien à Kiev. Hier, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères affirmait même que la France était en train de préparer un bataillon de la Légion étrangère pour intervenir en Ukraine.
En Israël, Benny Gantz a décidé de rompre les rangs.
Oui, hier soir, le principal rival du Premier ministre Benjamin Netanyahou a appelé à des élections législatives anticipées, une manière de tendre la main à tous ceux de plus en plus nombreux qui appellent le gouvernement à la démission en raison du grand mécontentement suscité à la fois par le sort des otages et au-delà par la stratégie funeste avec laquelle les autorités mènent aujourd'hui la guerre à Gaza. Les précisions de Valérie Crovin.
Benny Gantz surfe sur la vague de mécontentement qui s'exprime quotidiennement dans la rue. Des dizaines de milliers d'Israéliens, soutenus par les proches des otages détenus à Gaza, réclament inlassablement la démission de Benjamin Netanyahou en perte de légitimité. La confiance dans son gouvernement s'est érodée depuis le 7 octobre. Tous les sondages prédisent une défaite de l'actuel Premier ministre en cas d'élection et une victoire de Benny Gantz, qui dirige le parti centriste de l'Unité nationale. Sans surprise, la proposition de ce dernier a été rejetée par le Likoud, pour qui des élections anticipées conduiraient inévitablement à une paralysie. Autre voix critique envers Gantz, le ministre des Finances, Smotrich, dont le parti d'extrême droite, sionisme religieux, s'est allié à Benjamin Netanyahou. Dans son discours, Benny Gantz a fait allusion aux relations stratégiques avec les États-Unis qui ne doivent pas être mises à mal. Une phrase qui répond aux inquiétudes exprimées récemment par le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, proche de Joe Biden, avait ouvertement critiqué à la mi-mars le Premier ministre israélien qu'il avait qualifié d'obstacle pour la paix et avait plaidé pour de nouvelles élections. Le parlementaire démocrate a d'ailleurs approuvé dès hier soir l'appel de Benny Gantz en faveur d'un scrutin qu'il souhaiterait voir organisé en septembre prochain.
Deux jours après la mort des 7 employés d'une ONG américaine dans la bande de Gaza, dont 3 travailleurs britanniques, un présentateur de la BBC se demandait hier, le vent est-il en train de tourner? Alors il ne s'exprimait pas en l'occurrence sur la vie politique israélienne, mais bien britannique, car depuis cette attaque, à chaque jour qui passe, la pression s'accentue désormais sur le gouvernement de Londres pour qu'il réexamine ses ventes d'armes à l'État hébreu, plus exactement de pièces contenues dans une très grande partie du matériel militaire utilisé par Israël dans sa guerre contre le Hamas. Richard Place, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Culture à Londres. Depuis ce matin, ce sont à présent des spécialistes du droit, Richard, qui interpellent donc le gouvernement de Rishi Sunak.
Oui, une lettre ouverte de 17 pages signée par plus de 600 experts juridiques et des mots forts de la part d'universitaires, d'ex-juges et d'avocats. Ils demandent au gouvernement d'éviter la complicité du Royaume-Uni dans de graves violations du droit international, y compris de potentielles violations de la Convention sur le génocide. Pour cela, ils réclament la fin des exportations d'armes vers Israël. Parmi les signataires de ce texte, Jonathan Sumption, ancien juge de la Cour suprême.
Israël a commencé cette guerre à cause de ce qui s'est passé le 7 octobre, qui était vraiment effroyable. Mais dans le cadre du droit international sur la guerre, le fait d'avoir été provoqué ou attaqué ne signifie pas que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça ne dit pas que vous pouvez massacrer sans discernement des civils et des enfants. Il y a des limites dans ce que l'on peut faire, même pour se défendre.
Et une enquête d'opinion qui vient d'être publiée va dans ce sens également. Selon l'Institut YouGov, 56% des Britanniques veulent que leur pays arrête la vente d'armes à Israël, un sondage effectué avant la frappe aérienne qui a tué les 7 humanitaires. Le Royaume-Uni n'est pas le principal fournisseur de l'armée israélienne, il est loin derrière les États-Unis, pas non plus au niveau de l'Allemagne ou de l'Italie. Et le Premier ministre Rishi Sunak affirme aujourd'hui qu'il a toujours été clair sur le fait qu'Israël doit respecter le droit international.
Merci Richard Place en direct de Londres. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi encore agité, rythmé par les giboulées au nord, sec et ensoleillé au sud. Quant aux températures, elles afficheront entre 15 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.